Vous écoutez RTL.
Les curieuses sont là, les oui. curieuses et curieux d'ailleurs.
Ah non, on peut tout féminiser, moi j'adore ça.
Ah, j'adore Stéphane. Moi.
Je suis en jupe aujourd'hui.
Thomas Sidonie.
Il est adorable, même en féminin. Immersion, tiens, haute montagne, c'est pour les fillettes et les garçonnets aussi. Aujourd'hui dans la curiosité avec un pâtre. Vous savez ce que c'est un pâtre?
Dites-moi.
C'est un vacher, c'est une personne qui part se percher 5 mois de l'année avec ses bêtes, dans les Pyrénées notamment. C'est un monde de solitude et d'animalité qui va forcément vous bouleverser. Ce sera vers 14h30 dans la curiosité.
Et tout de suite sur RTL, on découvre l'homme qui a transformé Paris.
La curiosité est un vilain défaut.
On ne le sait pas, mais Paris est une des villes où l'on se déplace le plus facilement en Europe. Et pourtant, la ville a l'une des densités les plus importantes au monde.
RTL.
Ici, la moitié des trajets se fait à pied. Cette identité parisienne, on la doit à l'ambition d'un empereur, Napoléon III, et surtout à l'obsession de son préfet, le baron Georges Jeanne Haussmann.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la curiosité, c'est jusqu'à 15h sur RTL et c'est avec Sidonie Bonnec. Ça va Sidonie?
Ça va très bien Thomas, salut les curieux, bienvenue. Le principe de cette émission, c'est d'aller de découverte en découverte, c'est d'apprendre dans la bonne humeur, dans tous les domaines, on n'a pas de limite.
Mais oui, on adore varier les plaisirs, parler d'histoire, de nature, de science, d'aventure, partager avec vous des sagas musicales, tiens, il y aura Jim Morrison la semaine prochaine, et puis des portraits de personnalités, de héros français comme le baron Haussmann, l'homme qui a donné à Paris son visage actuel. Bonjour Charles de Saint-Sauveur.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver sur RTL.
Mais oui, bienvenue. Vous êtes chef de service aux Parisiens. Vous publiez en partenariat avec RTL un hors-série sur le Paris d'Haussmann. Bon, j'écoutais la mise en note de notre réalisateur Sébastien Dudouis avec un extrait de documentaire diffusé sur Arte en mai 2017. Paris, la ville où on circule le plus facilement. Je pense que ça a fait hurler quelques-uns de nos auditeurs franciliens. Mais bon, surtout en période de grève, on va se projeter à l'époque.
À pied, on circule bien quand même, vous exagérez.
À l'époque d'Haussmann. Avant de devenir la plus belle ville au monde, on va être un peu cocardier, Paris et surtout les Parisiens ont dû souffrir. Combien d'années de travaux?
Alors ça a duré à peu près 16 ans, un peu plus de 16 ans, presque 17 ans, où Paris a été le plus grand chantier du monde. En fait, la date, ça commence en juin 1853, au moment où Haussmann est nommé par Napoléon III préfet de la Seine. Et ça se termine jusqu'à son limogeage en 1870. Mais en fait, ça va continuer bien plus tard. Il suffit de voir les façades des immeubles pour se rendre compte qu'il y a des architectes qui ont construit des immeubles dits haussmanniens 1900-1905. Donc en fait, c'est quasiment 50 à 60 années de travaux. En plus, le métro prendra le relais, donc c'est voilà. Les Parisiens ont vraiment vécu dans un chantier permanent.
Ce qui est formidable, Charles de Saint-Sauveur, ce qu'on va faire avec vous, c'est de découvrir ce Paris d'avant le baron Haussmann. On ne le connaît pas forcément, nous, puisqu'on connaît que l'œuvre du baron Haussmann. Par exemple, l'île de la Cité, à quoi elle ressemblait au cœur de Paris, en termes de densité, de physionomie, à l'époque, avant Haussmann?
Alors c'était un enchevêtrement de rues étroites, insalubres, pas très engageantes. Même Haussmann les trouvait parler de coupe-gorge quand il évoquait l'île de la Cité. Mmh. Alors c'était vraiment le vieux Paris, le très très vieux Paris. Et Haussmann va dépoussiérer tout ça. Et c'est là qu'il s'est forgé d'ailleurs cette réputation d'Attila, cet éventreur de Paris qui a fait les gorges chaudes des médias à l'époque. Bon, c'est vrai qu'on peut le reconnaître, il n'y a pas été de main morte. Hein. Le parvis de Notre-Dame, par exemple, il l'a agrandi 6 fois. Il a tout rasé. Enfin, en tout cas, une grande partie de l'île de la Cité, il a déplacé l'Hôtel Dieu. Enfin, ça a été un chambardement absolument inouï. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était tellement dense les ruelles autour de Notre-Dame, du temps de Victor Hugo, des Misérables, que pour aller à Notre-Dame, il fallait passer par une passerelle.
Ah oui. Donc ce que vous nous expliquez, c'est évidemment une série d'expropriations et des moments aussi douloureux à vivre pour ceux qui habitaient dans ces quartiers qui ont été transformés. On en parlera tout à l'heure de ça, mais d'abord, on va faire un peu, plaider un peu, on va dire, la cause du baron Haussmann. Pourquoi cette modernisation était nécessaire?
Alors, on a souvent dit que Paris n'avait pas évolué depuis le Moyen-Âge, qu'il était toujours dans son jus médiéval. Alors, c'est un petit peu caricatural quand même. C'est-à-dire que c'est une ville qui s'est beaucoup agrandie, qui a été reconstruite, construite, etc., mais de façon très anarchique. Et dans le centre, c'est-à-dire de part et d'autre de la Seine, et notamment à l'île de la Cité, c'est vrai que les rues étaient très, très étroites. Par exemple, je citerai la rue de la Vieille Lanterne, qui était une minuscule rue où deux personnes ne pouvaient quasiment pas se croiser. C'était près du Châtelet, ouais. Alors elle a été rasée, mais sans vergogne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la rue, quelques mois avant d'être rasée, Gérard de Nerval, alors pas pour cette raison, hein, c'est pas à cause d'Haussmann, mais s'était pendu à une des grilles du vous savez, le poète, s'était pendu à une des grilles de la rue.
Alors côté hygiène aussi, Paris avait vraiment besoin d'un baron Haussmann?
Enfin, c'est Napoléon III vraiment qui est l'inspirateur de toute cette politique, ce renouvellement complet de Paris. Haussmann dira, je suis le metteur en scène de tout ça. Oui, c'est vraiment nécessaire parce que c'est une ville qui est un peu confite dans son passé et qui a besoin d'aller de l'avant, d'être beaucoup plus moderne, notamment d'un point de vue économique. On est en pleine révolution industrielle à l'époque.
C'était qui ce baron Haussmann, Georges Eugène Haussmann?
Alors, il vient d'une famille protestante, une très bonne famille d'Alsace, c'est quelqu'un voilà qui fait des études brillantes, qui rencontre de Musset, plein de gens qui ensuite feront parler d'eux. Il s'engage très très vite dans la préfectorale. Enfin, c'est vraiment un ambitieux. Alors, il est sous-préfet, il ronge son frein pendant des années, notamment dans le sud, à Issingeau dans la Loire, etc. Très opportuniste. Pas quelqu'un de très sympathique d'ailleurs. Haussmann, il est plutôt distant. Il est plutôt froid, imbu de lui-même, opportuniste, comme je l'ai dit. Ouais. Et d'ailleurs, une petite anecdote qui le résume bien finalement, c'est sans vergogne, sans aucun état d'âme qui fera raser la rue qu'il a vue naître en 1809, Faubourg du Roule. Voilà, il la fera raser 50 ans plus tard et sans le moindre état d'âme.
Mais au fait, Georges Eugène Haussmann, était-il vraiment baron?
Bah oui, parce qu'il le dit.
Bah oui, mais non, peut-être pas. Réponse à venir sur RT, restez avec nous.
Bonjour, c'est Julien Courbet. Écoutez-nous chaque matin entre 9h30 et 11h et vous verrez que tous ceux qui ont un problème et qui nous appellent, eh bien, repartent avec une solution. Pour cela, nous négocions en direct avec la partie adverse. Alors, à bientôt sur RTL.
Paris est une ville du 19e siècle.
RTL.
Vous voici dans la cité du baron Haussmann.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est entre 1850 et 1914 qu'est bâti le Paris d'aujourd'hui. Les vieux quartiers disparaissent en une trentaine d'années. Ils sont trop denses, insalubres et embouteillés.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Toujours avec Charles de Saint-Sauveur, chef de service au Parisien. Vous signez avec Laurent Deutsch et en partenariat avec RTL un hors-série sur le Paris d'Haussmann. Alors on l'appelle Baron Haussmann, c'était quelqu'un de très important, c'était un préfet en effet. Mais est-ce que c'était un noble? Un noble, est-ce que c'était un vrai baron?
Lui prétendait l'être. Hein. Disons qu'il s'est adjugé le titre un peu sans vergogne une fois qu'il a été élu sénateur, c'était en 1857. Alors il a prétendu que son grand-père, ce qui était vrai, était baron d'Empire, mais c'était pas un titre héréditaire. Et il a prétendu aussi qu'étant sénateur, il avait le droit automatiquement au titre de baron, ce qui était faux puisque dès la fin de Napoléon, c'est-à-dire à la Restauration, cette décision avait été caduque.
Bon, on l'a compris avec vous, Charles de Saint-Sauveur, le baron Haussmann avait un peu la grosse tête, mais il avait aussi beaucoup de talent, ça va parfois avec. En tout cas, si on parle de la transformation de la capitale qui a été radicale, est-ce que vous pouvez nous faire une liste rapide des monuments, des places, des avenues qui ont été créées à cette époque?
Alors Haussmann, vous le savez, ça commence d'abord par des démolitions, hein. C'était un démolisseur, un éventreur, donc 20 000 maisons détruites, des monuments un peu emblématiques, beaucoup de salles de spectacle, quelques églises, et il a aussi beaucoup déplacé la tour Saint-Jacques, elle a été poussée comme un pion d'échec de quelques mètres pour aménager la place du Châtelet et le boulevard de Sébastopol. Et l'Hôtel Dieu aussi, on en parlait tout à l'heure avec Notre-Dame, qui a été déplacée tout simplement. Et côté réalisation, alors c'est un inventaire énorme, puisque outre l'opéra et les halles de Baltard qu'on a bien connues, il y a eu le percement de beaucoup de boulevards, Sébastopol, Strasbourg, l'avenue de l'opéra, on en parlait, la rue de Rennes, la rue Réaumur, les avenues Foch, Victor Hugo, Georges V, enfin, et même le visage actuel des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, oui. C'est lui.
Les grandes artères principales, en fait, c'est ça,
oui,
de Paris.
Oui, quand on regarde une carte, et qu'on voit un petit peu les réalisations d'Haussmann, c'est flagrant. Ouais. Alors, ce qui compte à Paris, 60% de la capitale a été, la physionomie de la capitale a été modifiée sous le règne d'Haussmann.
60%, c'est énorme, avec donc à l'impulsion, à la décision politique, hein, vous nous l'avez dit, Charles de Saint-Sauveur. Napoléon III, quel est son objectif, quelle est sa stratégie politique en donnant cette carte blanche là au baron Haussmann?
Alors lui, il en a plusieurs. Il veut assainir Paris, qui est vraiment un grand cloaque. Enfin, on exagère un petit peu, mais il y a eu le choléra en 1832, ça a tué 19 000 Parisiens quand même. Il veut embellir, il a envie d'une ville belle, il a été à Londres, il sait ce que c'est qu'une ville belle, avec des espaces verts, aérés, il veut faire passer la lumière. Le maître mot de Napoléon III, c'est circuler, il faut circuler, libérer les flux, laisser passer la lumière, laisser passer l'air, ce qui n'est pas le cas, il y a beaucoup de miasmes qui circulent, beaucoup de maladies.
Compliquer les insurrections, les barricades aussi.
Exactement, oui. Ouais. En 25 ans, alors je ne parle pas de la Révolution française, mais en 25 ans, il y a eu à peu près une dizaine d'insurrections, dont deux qui ont balayé des régimes, hein, celui de Louis-Philippe et plus tard en 1848. et 1830. Le faubourg Saint-Antoine, par exemple, qui paraît si calme aujourd'hui, c'était un foyer d'insurrection. Il suffisait de quelques matelas, d'une charrette renversée, et hop, on avait une insurrection qu'on mettait deux jours à essayer d'éteindre. Donc c'était vraiment très très compliqué, il fallait mater ça, et Napoléon III était quelqu'un d'ordre, comme Haussmann.
Le baron Haussmann qui a aussi créé les égouts, le tout à l'égout, donc ça faisait partie de l'assainissement parisien. D'une certaine façon, on peut dire qu'il était visionnaire, Charles de Saint-Sauveur. Pourquoi ?
Oui, il était visionnaire, c'est-à-dire qu'il a vraiment inventé Napoléon III et avec lui Haussmann. Donc, il avait un petit plan colorié où il avait tout dessiné avant d'en confier la réalisation à Haussmann. Donc, Napoléon III est vraiment l'inspirateur de tout ça. Lui, comme on l'a dit, il avait été à Londres et il avait vu ce que c'était qu'une métropole moderne tournée vers l'avenir. Et Paris, de fait, l'était pas. Et donc, il y avait en plus une vision sociale chez lui très importante. Il avait publié, quand il était en prison dans la Somme, un manifeste contre l'extinction du paupérisme. Il disait parfois, d'ailleurs, par provocation, qu'il était socialiste. Donc il y avait vraiment tout ça chez lui.
Je crois que dans le métro ou dans les égouts, il avait laissé la place pour trois canalisations, une canalisation pour l'eau, une pour le gaz et une troisième pour la technologie du futur.
Et c'était l'électricité, évidemment.
Ben, c'est bien vu. Voilà.
Haussmann, c'est un visionnaire, il a transformé Paris, certes, mais à quel prix ? Combien de Parisiens pauvres ont-ils été expropriés, et comment ont-ils été relogés ? Surtout, on vous raconte bien sûr la suite de l'histoire dans La Curiosité.
Denis Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Le Paris d'Haussmann, une révolution dans la ville, c'est le titre du hors-série du Parisien en partenariat avec RTL et le premier thème de notre curiosité jusqu'à 15h. Tout à l'heure, vers 14h30, on va changer complètement d'univers, on va partir en direction des Pyrénées, respirer le bon air de la montagne avec un pâtre, avec un vacher d'aujourd'hui, un pâtre version 2018. Mais tout de suite, on continue, Haussmann, le transformateur, le révolutionnaire dans Paris. On
est Attila avec pour les intimes.
Avec Charles de Saint-Sauveur qui a supervisé ce hors-série du Parisien. Effectivement, c'était un démolisseur, le baron Haussmann. Est-ce que c'était un démolisseur sans cœur ?
Alors, franchement, le cœur, il l'avait un petit peu mis de côté pour accomplir sa grande œuvre. C'est comme ça, c'était un grand serviteur de l'État, implacable, la raison au-dessus de tout. 20 000 maisons détruites, 47 rues rasées. Il fallait effectivement
et
être sans état d'âme.
Combien d'humains expropriés ?
Alors, des dizaines, ça n'a pas été exactement chiffré, mais des dizaines de milliers de Parisiens qui ont été expropriés. Alors, tous n'ont pas subi l'expropriation de façon négative. C'est-à-dire que c'était quand même des rues malfamées, que beaucoup de gens étaient contents de quitter.
Il y avait une demande de transformation
qui avait été exprimée dès les années 1840 et que Napoléon III avait bien entendu. Donc il y avait une demande. Après, comme vous le savez, et c'est valable toujours aujourd'hui, dès que ça vous concerne, c'était relativement
mais
violent.
Mais encore une fois, le relogement de ces Parisiens expropriés a été organisé. C'est-à-dire on perdait 3 mètres carrés, on retrouvait un peu plus loin, j'imagine, dans le pourtour de Paris, un appartement de 10, 12, 15 mètres carrés.
Alors non, c'est pas comme ça exactement que ça s'est passé. Pour certains Parisiens, oui. Il y avait une loi d'expropriation d'ailleurs qui était, qui tombait implacable. Vous étiez viré, il n'y avait pas de recours possible, en tout cas très peu. Et quand vous étiez exproprié, généralement, il fallait aller vers les faubourgs extérieurs. Souvent, c'était des maisons, donc des taudis, des gens pauvres. On se débrouillait et on allait vers l'extérieur parce que, évidemment, avec l'embellissement de Paris dans le centre, les prix montaient très très fort du côté des loyers.
Oui, et c'est aussi la naissance du Grand Paris, en tout cas du Paris d'aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs arrondissements qui rentrent dans le giron de la capitale,
oui.
c'est ça ?
Oui, c'est l'accomplissement le plus spectaculaire d'Haussmann. Il y en a eu beaucoup, les égouts, etc. Mais vous avez tout à fait raison, il y a 8 arrondissements qui ont été gagnés. C'était le 1er janvier 1860, le premier Grand Paris, c'est finalement ça. Donc Paris s'étend, gagne 8 arrondissements, double sa surface, double sa population. On aère un petit peu Paris quand même.
Et alors on l'a pas encore dit, Charles de Saint-Sauveur, mais quand on lève le nez et qu'on regarde un immeuble haussmannien, ça ressemble à quoi ?
Alors,
c'est quoi le style haussmannien ?
Un style haussmannien, c'est vrai qu'il est très facilement reconnaissable parce qu'il a aussi prospéré en province, dans certaines villes comme Lyon ou comme Bordeaux. Un immeuble d'Haussmann, c'est 6 à 7 étages, pierre de taille, donc avec cette couleur caractéristique entre le brun et le gris. Des balcons, généralement au deuxième étage, qui est l'étage noble, avec une belle hauteur sous plafond qui accueille les grands bourgeois. Et au cinquième étage, qui est un étage un petit peu moins noble, mais enfin bon, qui aujourd'hui l'est devenu. Et donc
des grandes fenêtres,
des pièces d'apparat qui donnent sur la rue et des pièces de confort, enfin de vie pour dormir, ou la cuisine qui donne sur la cour. C'est généralement un immeuble qui fait 17,55 m, il faut être très précis avec Haussmann, de hauteur.
Et pourquoi le cahier 17 mètres,
parce que c'était la largeur des rues, il fallait pas que ça excède la largeur des rues. Et avec 45 degrés d'inclinaison pour le dernier étage, pour laisser passer la lumière. C'est la grande idée de Napoléon, on en parlait tout à l'heure. Il faut laisser passer la lumière. Et pour ça, donc, on incline le dernier mur. Mais dans les grandes avenues, c'est 20 mètres. Donc les immeubles peuvent être un petit peu plus hauts parce que les avenues sont plus larges et qu'à ce moment-là, effectivement, on peut monter un peu.
Charles de Saint-Sauveur, c'est presque une organisation sociale que vous nous décrivez là, dans un immeuble haussmannien. Au rez-de-chaussée, il y a des commerces.
Au rez-de-chaussée, il y a des commerces, très souvent, oui, ou de belles entrées. Au premier étage, ce qu'on appelle l'entresol, alors là, c'est plutôt pour les commis de magasins, ou alors on installe des cafés, s'il y a par exemple des commerces en dessous. Le deuxième étage, donc, c'est
grands bourgeois,
nobles, des grands bourgeois avec une très belle hauteur sous plafond, des cheminées, des pièces en enfilade, un balcon filant. Tout ça donne une perspective incroyable, qu'on peut vraiment voir de façon spectaculaire sur l'avenue de l'Opéra, qui est la réalisation la plus aboutie du principe haussmannien.
Et tout en haut, des chambres de bonne ou pas ?
Oui, alors c'est ce qu'on appelle donc des chambres de bonne, qui sont petites, toutes petites même. Généralement, on étouffe en été, et on se gèle en hiver à cause des toits en zinc.
J'ai testé, c'est vrai.
Oui, on a tous testé. Premier job à Paris, on a tous été dans une chambre de bonne.
Les études, tout. On connaît par cœur l'haussmannien d'en haut. La curiosité continue sur RTL. On se balade dans le Paris réinventé par le baron Haussmann. On va découvrir l'histoire de la place de l'Étoile. Et puis juste après, on va quitter la ville et on va partir dans les Pyrénées en altitude pour partager le quotidien d'un pâtre en 2018.
Haussmann, c'est Paris.
RTL.
Préfet de la Seine sous le Second Empire, le baron Haussmann métamorphosa la ville.
La curiosité est un vilain défaut.
Et tout cela par la volonté de Napoléon III qui désigna Haussmann pour que sa vision devienne réalité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est la curiosité, merci de nous être fidèles. Sur la première radio de France, on découvre depuis tout à l'heure comment le baron Haussmann a transformé Paris grâce à notre invité Charles de Saint-Sauveur, qui est chef de service aux Parisiens. Vous nous servez de guide, grâce à vous, on a découvert comment le baron Haussmann a travaillé 17 ans de travaux avec lui, mais en fait une transformation qui a duré ensuite pendant des décennies jusqu'au début du XXe siècle. Tout ça commence en juin 1853. Je le rappelle, il y a une place qui est peut-être la plus emblématique du travail d'Haussmann, en tout cas c'est celle qui est la plus connue des Parisiens et des touristes du monde entier, c'est la place de l'Étoile. Qu'est-ce qu'elle a d'haussmannien par excellence ?
Alors, l'idée, c'est de désenclaver l'Ouest parisien. Donc déjà, là, on est vraiment purement dans la mission que Napoléon III a assignée à Haussmann. Et donc, il faut pour ça créer des avenues qui vont elles-mêmes irriguer comme des fleuves, toutes les petites rues des quartiers qui étaient jusque-là très enclavés, très isolés. D'ailleurs, à l'époque, il y avait 4 avenues autour de la place de l'Étoile. Et en plus, il y a vraiment quelque chose de symbolique. Et c'est en ça que c'est vraiment très napoléonien. C'est qu'il y a l'Arc de Triomphe qui était le grand bâtiment qui avait été créé sous Napoléon, l'oncle de Napoléon III. Ouais. Et donc, voilà cette avenue, ces 12 avenues parfaitement symétriques, en étoile, qui irriguent tous les quartiers de Paris. Il y a 3 arrondissements aujourd'hui qui côtoient la place de l'Étoile, avec la plus belle avenue du monde qui va être réaménagée par Haussmann et vraiment devenir le symbole de Paris.
Avec des trottoirs aussi autour de cette place de l'Étoile. Il y a quoi sur ces trottoirs ? Il y a de l'activité, des commerces au 19e siècle ?
Ah oui, c'est l'endroit, the place to be à Paris. Il y a des cafés qui débordent sur les trottoirs. C'est une habitude qui a prospéré encore aujourd'hui. On le voit plus que jamais. Et là, il y a vraiment quelqu'un, parce que Haussmann s'est entouré de personnalités très, très fortes. Gabriel Daviou, c'est lui qui a vraiment aménagé toute cette activité sur les trottoirs, les kiosques, les Vespasiennes, les colonnes Maurice, évidemment, qu'on connaît, plus les fontaines, etc. Enfin, voilà, ça a débordé d'activités sur les trottoirs où il fallait être vu et voir.
Ouais, il mérite bien son nom de baron quand même, gars Haussmann.
On lui laisse son titre. Merci beaucoup Charles de Saint-Sauveur, le hors-série du Parisien qui est consacré donc au Paris d'Haussmann et Tankios. C'est en partenariat avec RTL, avec tous les autres personnages, parce qu'on a centré sur Haussmann, mais il y a du Napoléon III, et puis il y a d'autres architectes, créatifs, dessinateurs qui ont bossé avec lui.
Vous écoutez RTL.